الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va commencer. Y a le haut-parleur là? Ah. On va commencer par des questions que les sœurs elles ont fait passer. Donc la plupart ça va. Yani la réponse elle est disponible. La première, c'est est-ce que la femme qui prie Salat al-Jumu'ah à la mosquée et celle qui prie dans son foyer ont la même récompense? Barakallahu fik. Donc, la femme, elle a toujours une plus grande récompense à prier dans son foyer pour toutes les salats, sauf Salat al-Aïd. Puisque de toute façon, Salat al-Aïd, elle n'existe pas à la maison. Mais pour, en ce qui concerne Salat al-Jumu'ah, il est encore mieux pour elle de prier le Dhuhr à la maison que de prier Salat al-Jumu'ah à la mosquée. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de l'aspect général du hadith qui dit que la prière de la femme à la maison elle est plus méritable pour elle, contrairement à l'homme. On connaît les hadiths qui parlent de la prière comme quoi elle a 27 degrés en plus pour l'homme s'il prie en jama'a. Quant à la femme, les hadiths ils disent que, donc les hadiths précisément je ne les ai pas en tête, ni la référence, que la prière que la femme elle fait chez elle, elle a plus de mérite que la prière qu'elle fait à la mosquée. Et ça c'est vrai même pour les mosquées sacrées. Donc ça, et ça rentre aussi dans, en ce qui concerne le Jumu'ah. Ensuite, dans les conditions qui permettent d'établir l'acte de mariage religieux, il y a la présence du tuteur de la fille, celui qui fait la demande de mariage, les deux témoins et l'accord de la sœur concernée. En fait, pour être plus précis dans la formulation de la question, c'est pas la présence de ces personnes-là qui sont une condition, c'est-à-dire c'est leur accord. Parce que ça peut se faire par exemple par téléphone, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas présents. Ou alors ça peut se faire par quelqu'un qui les délègue. Par exemple, il dit, c'est toi qui vas marier ma fille, en mon nom. Donc il va parler au nom du tuteur. En tout cas, bref, c'est leur accord et la demande de donc les deux témoins et l'accord de la sœur concernée. Est-ce que celle-ci doit être présente lorsque le mariage est prononcé? C'est-à-dire quand toutes les personnes citées sont réunies pour prononcer l'accord et l'union des personnes. Donc là, c'est pas une condition, c'est pas demandé que la femme elle soit présente quand on la marie. C'est-à-dire c'est une affaire qui se fait entre celui qui demande la main de la fille, le tuteur de la fille et les témoins, c'est tout. Donc la fille elle est pas, l'accord de la fille se fait au préalable. Donc le père il demande au préalable l'accord de la fille. Et après le fait qu'elle soit là, c'est pas demandé dans la religion. Ensuite, quels sont les avis des savants sur le don d'organes? Donc le don d'organes, je me souviens plus, ça dépend des cas. Donc je regarderai Inch'Allah dans Tawdih al-Ahkam du Sheikh Abdullah al-Bassam, dans l'explication de Boulour al-Maram qu'il a faite. Et il a rapporté les fatawas de al-Mujamma' al-Fiqhi, de la Mecque, et aussi de l'Ejnet Daima, le conseil permanent de la fatwa. Et Inch'Allah, je les mettrai sur le forum al-Minhaj. Alors, quatrième question. Enfin, si les sœurs ont d'autres questions à poser aux intervenants du mercredi et du jeudi, à qui doivent-elles s'adresser? Aux intervenants du mercredi et du jeudi. C'est-à-dire qu'il faut les refaire passer comme ça par papier, Inch'Allah. Et si c'est des choses qu'on ne connaît pas, on cherchera, Inch'Allah. C'est quel verset là? 22? si j'ai fini. Donc on est au 23. Donc on continue maintenant dans le tafsir. Donc qui c'est qui va lire là? Tu lis? Vas-y, passe le mushaf s'il te plaît. Versets 23, 24 et 25. Ouais.
بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
جزاك الله خيرا. Donc on va essayer de donner une traduction des versets. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Donc si vous êtes en doute à propos de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, fa'tu bi suratin min mithlihi, alors ramenez une sourate semblable à ceci. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Et si vous ne le faites pas, et certes vous ne le ferez pas, alors craignez un feu dont le combustible est le et sont les gens et les pierres, et qui a été préparé pour les mécréants. Et le verset suivant: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et donne la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. À chaque fois qu'on leur en donne un fruit comme subsistance, ils disent c'est ce que nous avons reçu auparavant. Wa utubihi mutashabiha, or ils ont reçu quelque chose qui lui ressemble. Wa lahum fiha azwajun mutahhara, et ils y auront des épouses purifiées. Wa hum fiha khalidun, et ils y seront éternels. Donc maintenant on va lire ce qu'il a dit Cheikh Abdelrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. هذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. Donc les deux versets, les deux premiers versets, ils contiennent un argument logique sur la véracité du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et de son message. وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الردين دعوته الزاعمين كذبه في الشك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره فها هنا أمر النصف فيه الفصيلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ. Donc il dit: ô vous qui mécroyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui renvoyez sa da'wa et qui prétendez qu'il est un menteur, si vous êtes en doute, c'est-à-dire que c'est pas clair pour vous le fait qu'il soit véridique, et il n'est pas clair pour vous ce qu'on a descendu sur lui, c'est-à-dire le Coran, est-ce qu'il est vrai ou pas, alors voilà quelque chose qui va trancher entre vous et lui. Donc ce qui va trancher, c'est que c'est un être humain comme vous. Il ne parle pas mieux que vous, c'est-à-dire c'est pas le plus expressif dans la langue arabe d'entre vous. Il n'est pas plus savant que vous, c'est-à-dire il est comme vous, à la base. Et vous le connaissez depuis qu'il a grandi. Et en plus, vous savez qu'il n'écrit pas et qu'il ne lit pas. فَأَتَاكُمْ بِكِتَابْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et ensuite, voilà qu'il ramène un livre en prétendant qu'il vient d'Allah. وَقُلْتُمْ أَنْتُمْ إِنَّهُ تَقَوَّلَهُ وَفْتَرَهُ. Mais vous avez dit, il l'a inventé. فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم. Il dit donc, puisque si ce que vous dites est vrai, qu'il l'a inventé, donc ramenez une sourate, écrivez une sourate qui est semblable à ce Coran, et aidez-vous de tous ceux que vous pouvez appeler à l'aide. Il dit donc ça doit être quelque chose de facile pour vous. خصوصاً أنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول. Surtout que vous êtes les gens qui savent s'exprimer. Parce que les Arabes, donc, les Arabes de l'époque étaient forts justement dans l'utilisation et l'expression par cette langue arabe. Et en plus, vous avez une grande inimitié pour ce prophète. Donc non seulement vous savez bien vous exprimer en arabe, mais en plus, vous le détestez, vous êtes contre lui. Donc tout pour que, effectivement, vous releviez ce défi. فَإِنْ جِئْتُمْ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَهُوَ كَمَا زَعَمْتُمْ. Donc si vous ramenez une sourate comme il l'a ramené, donc c'est comme vous prétendez. C'est-à-dire on sera d'accord avec vous sur le fait que il l'a inventé. وَإِنْ لَمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَعَجَزْتُمْ غَايَةَ الْعَجْزِ وَلَنْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَلَكِنْ هَذَا التَّقْيِيمُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْصَافِ وَالتَّنَزُّلِ مَعَكُمْ. Il dit, et si vous ne ramenez pas de sourate, or vous ne ramènerez pas de sourate comme lui. C'est-à-dire parce qu'Allah dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, et certes vous ne le ferez pas, donc en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'impossible, mais on émet cette suggestion et ce défi pour descendre à votre niveau, pour admettre, donc votre, pour se mettre au même niveau que vous dans le dialogue. فَهَذَا آيَةٌ كُبْرَى وَدَلِيلٌ وَاضِحٌ جَلِيٌ عَلَى صِدْقِهِ وَصِدْقِ مَا جَاءَ بِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ. Donc il dit le cheikh, ça c'est un grand signe qui prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son message, et qui doit vous amener à le suivre. وَاتِّقَاءُ النَّارِ الَّتِي بَالَغَتْ فِي الْحَرَارَةِ الْعَظِيمَةِ وَالشِّدَّةِ أَنْ كَانَتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Et donc ça doit vous amener à le suivre et aussi à craindre un feu qui est tellement chaud et puissant que son combustible ce sont les êtres humains et les pierres. ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين للكافرين بالله ورسله فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. Donc ce feu il n'est pas comme le feu d'ici-bas qui brûle avec le bois, qui est une matière légère, plus légère que des pierres. Donc ça prouve la puissance de cet autre feu. Et c'est un feu qui est préparé pour les mécréants, pour ceux qui mécroient justement à Allah et à son messager. Donc vous devez craindre le fait de mécroire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il vous est parvenu et il vous est apparu plutôt qu'il est bel et bien le messager d'Allah. وَهَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْوِهَا يُسَمُّونَهَا آيَاتِ التَّحَدِّي وهو تعجيز الخلق عن أن يتوب بمثل هذا القرآن. Donc et ces différents versets, comme il y en a plusieurs dans le Coran, on les appelle les versets du défi. التحدي. التحدي c'est quand je défie quelqu'un. Et donc ce sont des versets qui expriment l'incapacité des gens à ramener quelque chose qui ressemble au Coran. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Là, il a cité un autre verset pour appuyer ça, sachant qu'il y en a plusieurs. Il y a un verset qui dit de ramener un Coran, il y a un verset qui dit de ramener un seul, qui dit de ramener une sourate, il y a un verset qui dit de ramener 10 versets. Donc il y a plusieurs versets qui comportent ce défi. Et là, il a cité le verset où Allah dit que même si les djinns et les humains se regroupaient pour ramener quelque chose qui y ressemble, ils n'y arriveraient pas. Et même s'ils s'entraidaient les uns les autres. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من كل الوجوه. Donc il dit comment une personne créée de terre pourrait ramener une parole semblable à celui qui l'a créé justement, et comment celui qui est pauvre par essence et qui est diminué par essence il pourrait ramener une parole qui est comme la parole de celui qui est parfait par essence et qui est rani, riche par essence, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne. هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلاغة ظهر له الفرق العظيم. Et donc il dit donc bien sûr ceci est impossible. Et toute personne qui connaît les façons de parler, donc notamment par exemple si on parle des matières de la langue arabe, par exemple il connaît le balara, l'expression, etc. Donc le cheikh il dit celui qui connaît les façons anwa' al-kalam, les différentes façons de s'exprimer, de parler, et qui les compare avec le Coran, c'est-à-dire il compare les gens qui savent bien s'exprimer, al-bulara, al-fusaha, il compare leurs paroles au Coran, il trouve qu'elles n'ont pas de poids à côté. Et il voit une grande différence entre les deux. وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلال هو الشك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال. Le cheikh ici ramène une grande faïda. Donc ce qui est bien dans ce tafsir, c'est qu'il t'explique les versets tout simplement en les détaillant un peu, mais aussi des fois il ramène des fawaïd, c'est-à-dire ce qu'on retire du verset. Là il dit, quand Allah dit si vous êtes en doute au sujet du Coran, et le verset qui suit, il dit ça on en retire que celui dont on espère la guider, c'est celui qui est en doute parce que la vérité elle lui est pas encore apparue, parce qu'il n'a pas encore eu connaissance de la vérité. وهو الشك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال فهذا الذي إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. Et il dit donc celui-là qui n'a pas encore bien vu la vérité du faux et qu'on lui a pas bien montré entre guillemets, il dit celui-là quand on lui montre la vérité clairement, il va ou il est plus proche de ce qu'on appelle être tawfiq, c'est-à-dire qu'Allah le guide, parce que lui il ne savait pas tout simplement, si bien sûr il est véridique dans sa recherche de la vérité. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. Il dit quant à al-mu'anid, l'orgueilleux, celui qui contredit, qui a connu la vérité mais qui l'a délaissée, il dit celui-là il ne peut pas revenir parce qu'il a délaissé la vérité après qu'elle lui soit parvenue, après qu'il l'ait connue. Et donc il n'y a pas de moyen, si vous voulez. En fait, ce qu'il veut dire ici pour résumer, c'est que celui qui est dans la mécréance ou dans le doute, etc., par manque de connaissance de la vérité, s'il recherche sincèrement la vérité, celui-là, il va plus facilement être guidé par Allah que celui qui connaît la vérité et qui la délaisse alors qu'il la connaît bien. Parce que l'autre, c'est simplement, il ne l'a pas vraiment délaissé, c'est parce qu'il ne la connaissait pas. Alaykoum salam. Je croyais qu'Amine y allait venir, je dis non. Alaykoum salam. Bon, on continue. وكذلك الشك غير الصادق في طلب الحق. Maintenant une troisième sorte de personne. وكذلك الشك غير الصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد في طلبه فهذا في الغالب أنه لا يوفق. C'est-à-dire il dit aussi maintenant une troisième sorte de personne. C'est celui qui est dans le doute et qui ne connaît pas, mais il n'est pas véridique dans sa recherche de la vérité. C'est-à-dire lui, il est mu'arid, c'est-à-dire il se détourne et il ne fait pas d'effort pour connaître la vérité. Cheikh dit celui-là aussi, généralement, la yuwafaq, c'est-à-dire Allah ne le guide pas à la vérité. Donc ici, regardez comment il a divisé les gens en trois catégories. Celui qui connaît la vérité et la contredit avec connaissance, donc celui-là généralement, il ne va pas revenir, Allah ne va pas le guider, puisque lui-même a délaissé la vérité. Et celui qui délaisse la vérité parce qu'il ne la connaît pas. Enfin, en fait, il ne la délaisse pas, mais il n'est pas dedans, tout simplement parce qu'il ne l'a pas bien comprise ou il ne la connaît pas. Donc il dit, celui-là, s'il est véridique dans son intention, celui qui est dans cette catégorie de personnes, celui qui est véridique dans le fait qu'il veut connaître le haq, généralement, Allah va le guider. Mais s'il n'est pas véridique, c'est-à-dire il ne fait pas d'effort pour chercher le haq, Allah, celui-là, généralement, ne va pas le guider. Tout ça, on en comprend aussi, notamment, on peut faire une parenthèse, ici on comprend quand on lit dans le Coran Allah guide qui il veut, il égare qui il veut, etc. C'est qu'il y a des asbab, il y a des causes dans le fait qu'une personne soit guidée et dans le fait aussi qu'une personne soit égarée. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. Donc il dit aussi, là il ouvre une autre parenthèse, c'est qu'ici Allah Azza wa Jal a qualifié le prophète de Abd, sallallahu alayhi wa sallam. Abd, comment on peut le traduire par serviteur ou créature? Des fois ils écrivent esclave, mais esclave, ça rend pas bien le mot. Donc ici il l'a appelé Abd, puisqu'il a dit, si vous êtes en doute au sujet de ce que nous avons descendu sur notre Abd, c'est-à-dire notre serviteur. Or, ici, il l'a qualifié de Abd dans une position qui est grande. Quand il a parlé de lui comme étant celui qui reçoit la révélation, il l'a nommé Abd. C'est-à-dire que parmi les plus grands adjectifs ou les plus grands qualificatifs du prophète, c'est Al-Ubudiyya, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait qu'il est justement un Abd. Cette Ubudiyya qui lui est spécifique et dans laquelle aucun des premiers ni des derniers n'a réussi à le rejoindre. C'est-à-dire, c'est pas le simple, parce qu'on sait que le Ubudiyya est de deux sortes. Le Ubudiyya qui concerne tout le monde, même les mécréants, qui est le fait qu'on soit soumis par nature à Allah, et on est soumis à ses lois universelles. Et l'autre Ubudiyya, qui est qu'on se soumette, c'est-à-dire de volonté, à la guider, à l'ordre d'Allah et à ses interdits. Et cette Ubudiyya-là, Allah vante beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant Abd. C'est dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, cette Ubudiyya, cette façon d'être un Abd, personne bien sûr n'a égalé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده. Donc regardez ici, faites attention, Allah il a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abd quand il a dit dans sourate Al-Baqarah qu'on est en train d'expliquer sur ce que nous avons fait descendre sur notre Abd. Donc là il parle de la descente du Coran, il l'a appelé Abd. Après, il l'a appelé Abd, c'est-à-dire serviteur, quand il a dit que soit exalté celui qui a fait Asra bi Abdi, c'est-à-dire qui a fait voyager son serviteur la nuit, lors du voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Or, ça c'était une grande karama, c'est-à-dire c'est un grand bienfait d'Allah, et c'est aussi une mu'ajiza du prophète, un miracle qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette événement qui est un honneur pour le prophète, quand Allah le relate, il l'appelle Abd, il l'appelle serviteur. وفي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Quand Allah parle dans un autre verset du fait qu'il descende le Coran sur le prophète, il l'a nommé Abd dans sourate Al-Furqan. Que soit élevé celui qui a fait descendre le discernement sur son Abd, c'est-à-dire sur son serviteur. وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. Aussi, une autre parenthèse ou une autre chose qu'on retire du hadith, dans le hadith qui dit أعدت للكافرين, craignez un feu dans le combustible sur les êtres humains et les pierres, أعدت للكافرين, qui a été préparé pour les mécréants. Ça prouve que, comme le dit Ahlus Sunnah wa Jama'a, le paradis et l'enfer existent maintenant. C'est-à-dire ils ne seront pas créés au jour du jugement, contrairement à ce qu'on dit Al-Mu'tazila. Donc les gens de la philosophie, de la spéculation, si on peut les appeler comme ça, eux ils disent Al-Mu'tazila notamment que le paradis et l'enfer n'existent pas. Ils existeront qu'au jour du jugement. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'Allah va les créer. وفيها أيضا أن الموحدين وإن يرتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار. لأنه قال أعدت للكافرين فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. Regardez tout ce que le Cheikh retire de ce verset. Et il dit, on en retire aussi que les monothéistes, c'est-à-dire les musulmans, quelle que soit leur époque, c'est-à-dire les musulmans de toute époque selon le prophète qu'ils ont suivi, donc les monothéistes, les désobéissants parmi eux ne sont pas éternels en enfer. C'est-à-dire il est impossible qu'Allah, Azza wa Jal, comme il nous en a informé, il ne rendra pas des gens éternels en enfer alors qu'ils étaient muwahidin, c'est-à-dire monothéistes, ou c'est-à-dire, on peut traduire aussi par musulmans. Ceux qui sont éternels en enfer, c'est seulement al-kafirin. D'où il a retiré ça, le verset qui dit justement, ce feu a été préparé pour les mécréants. Donc si les mécréants et les désobéissants parmi les musulmans avaient le même statut en enfer, c'est-à-dire que tous étaient éternels, il n'aurait pas dit simplement « elle a été préparée pour les mécréants ». Il aurait fallu dire « elle a été préparée pour les mécréants » et aussi pour les désobéissants parmi les musulmans, puisqu'on sait que les désobéissants parmi les musulmans, une bonne partie d'entre eux vont passer en enfer. Donc le fait qu'il ait dit que c'est préparé que pour les mécréants, c'est qu'il y a une différence. Cette différence, quelle est-elle? C'est que les mécréants, ils sont éternels, alors que les musulmans qui y passeront, ils y seront pour une durée. Et ça, c'est contrairement à l'avis de Al-Khawarij et de Al-Mu'tazila. Là, on va faire un questionnaire, on va voir si vous suivez bien les cours. Toi, tu peux pas. Parce que t'étais pas là. Walid, ouais. C'est quoi l'avis d'Al-Khawarij auquel il fait allusion ici? Non, justement, c'est pas la semaine dernière, c'est depuis 2006. Ah, je t'ai eu là. Ismaïl, c'est quoi l'avis auquel il fait allusion ici? Ouais, mais à la limite, c'est pas sur ça. C'est plus par rapport. C'est-à-dire, Khawarij, ils sont sortis de Al-Jama'a en ce qui concerne qui? Donc, comme il l'a dit, en ce qui concerne qui, Ismaïl? En ce qui concerne les pécheurs des musulmans, ceux qui commettent les grands péchés ou qui délaissent des obligations. Donc, en ce qui concerne leur jugement ici-bas, les Khawarij disent sont des mécréants. Donc c'est alors que l'Al-Sunna disent qu'ils restent musulmans, même si la personne elle vole, elle commet la fornication, elle boit l'alcool, comme c'est dit dans les hadiths, elle reste musulmane. Les Khawarij ont dit qu'ils sortent de l'islam. Et au jour du jugement, c'est-à-dire dans l'Akhira, il sera éternel en enfer. Ce qui est logique, à l'intérieur de leur avis, c'est logique, puisque s'ils disent qu'il est mécréant, ils disent qu'il va être éternel en enfer. Et les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la différence? Donc ça, c'est quand? Ici-bas ou dans l'au-delà? Voilà, c'est ça. Donc comment ils les appellent? Ici-bas? Ben, ils les appellent pas, en fait. En fait, le Mu'tazila, eux aussi, ils ont divergé de Al-Sunna sur ceux qui font les grands péchés ou qui font pas les obligations. Donc, en ce qui concerne ici-bas, ils les ont pas appelés mécréants. Ils disent ils ont inventé une nouvelle station. Ils sont ni musulmans, ni mécréants. Donc, c'est leur bid'a qu'ils ont inventé. C'est propre au Mu'tazila. Al-Manzila bayna al-Manzilatayn. C'est une position entre deux positions. Et dans l'Akhira, ils disent comme Al-Khawarij. Ils sont éternels en enfer. Donc regardez à quel point ils n'ont pas de rahma. Ils ne les classent pas mécréants, mais pour l'Akhira, ils seront éternels en enfer comme les mécréants. Donc en tout cas, c'est ça l'avis auquel ils faisaient allusion ici. وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعَذَابَ مُسْتَحَقٌ بِأَسْبَابِهِ وَهُوَ الْكُفْرَ وَأَنْوَاعُ الْمَعَاصِي عَلَىٰ اخْتِلَافِهَا. Et le verset, il montre aussi que le châtiment, il se mérite, il a des causes. Et ces causes, ce sont la mécréance et les désobéissances. ثم قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. Donc ensuite, on passe au verset suivant qu'il a lu à Abdelkarim. Et donne et annonce à ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres qu'ils auront des jardins, etc. Le verset, donc il continue après. Donc le cheikh, il a dit dans l'explication لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا وراهبا خائفا راجيا فقال وبشر. Donc après qu'Allah Azza wa Jal ait parlé de la récompense qu'auront les mécréants, en fait quand on dit récompense c'est-à-dire la rétribution qu'ils auront, maintenant il mentionne la récompense des croyants, donc ceux qui ont fait les bonnes œuvres. Et ça, c'est la façon dont Allah parle dans le Coran. C'est que il réunit Tarib et Tarib. Tarib, c'est de donner envie, de motiver, si vous voulez, donner espoir. Et Tarib, c'est de faire peur. Et quand on regarde Allah dans le Coran, il réunit entre ces deux façons. Donc c'est ça pourquoi? Pour que celui qui lit le Coran, la personne, elle soit justement, elle est les deux. Elle est à la fois l'espoir de la récompense et la crainte du châtiment. Donc il a dit wa bashir ayya ayyuha ar-rasul wa man qama maqama alladhina amanu biqulubihim wa 'amilus salihati bijawarihim fasaddaqu imanahum bi'a'malihim as-salihah. Donc il a dit wa bashir, c'est-à-dire donne la bonne nouvelle, toi le prophète ou ceux qui sont à sa place, ceux qui le suivent. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, c'est-à-dire par leur cœur, wa 'amilus salihat, et qui ont fait les bonnes œuvres par leur corps, c'est-à-dire que ils ont authentifié, si vous voulez, saddaqu imanahum, c'est-à-dire ils ont cette foi qu'ils ont dans le cœur, leur croyance, ils l'ont prouvé entre guillemets, ils l'ont rendu véridique par les actes. Wa wasafa a'mal al-khayri bis-salihat li'anna biha tasluhu ahwal al-'abd. ولأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في الجنة. Donc il a dit pourquoi Allah Azza wa Jal, les bonnes actions, il les appelle salihat. Il dit c'est parce que par ces actions-là, les situations de la personne tasluh, c'est-à-dire elles vont être bonnes et elles vont s'améliorer. Donc ses œuvres, elles s'appellent salihat. Donc sa vie d'ici-bas et la vie future, elle s'améliore par ces actions-là. Et les mauvaises choses qui peuvent le toucher dans toutes ces situations, elles vont s'enlever quand il va faire ces actions-là. Et cette personne va être parmi as-salihin, les vertueux. Alladhina yasluhun, c'est-à-dire ceux qui sont aptes, yasluhun, et qui valent d'être au voisinage d'Allah Azza wa Jal dans le paradis, c'est-à-dire d'être proche d'Allah au paradis. فبشرهم أن لهم جنة أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها أو ينعم فيها ساكنها. Donc après il a dit et donne-leur la bonne nouvelle qu'ils auront des jannats, c'est-à-dire des paradis, donc comme le dit Cheikh ici, qui regroupent toutes sortes d'arbres incroyables et de fruits et de l'ombre, des ombres étendues, toutes sortes de fruits et d'arbres, etc. À tel point qu'on l'appelle Jannah, parce que celui qui y rentre, il est caché et réfugié dans l'ombre de ce paradis. En fait, Allah a'lam, je crois, il fait ici allusion au fait que, en arabe, souvent, le mot, les lettres, la racine, Jim, Nun, Nun, c'est toujours pour des choses qui sont cachées. Par exemple, Al-Jin, tout simplement, Al-Jin, qui sont les djinns, on ne les voit pas. Si par exemple on prend l'être humain, quand il est dans le ventre de sa mère, on l'appelle Jenin. C'est quoi le rapport entre djinn et Jenin? Le Jenin, on ne le voit pas. Mais le Jannah aussi, il y a dedans cette allusion. C'est que la personne, elle est enveloppée dans l'ombre du Jannah. Wallahu a'lam. تجري من تحتها الأنهار. Donc les ruisseaux coulent, ou courent plutôt, sous ces jardins. أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار أو فتنبت أصناف الثمار. Donc il a dit sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire des ruisseaux d'eau, de lait, de miel et de khamr. Khamr entre guillemets l'alcool. Donc qu'ils peuvent utiliser comme ils le veulent et qu'ils peuvent ouvrir comme ils le veulent. Et aussi c'est à partir de ces ruisseaux-là, de ces fleuves-là, que justement les arbres du paradis poussent. Donc ils donnent des fruits aussi beaux que ces fleuves. Donc bien sûr ça il le tire d'un autre verset, dans Sourate An-Nahl, quand Allah dit que donc ceux qui sont au paradis ont les fleuves de quatre sortes, le miel, etc. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Donc à chaque fois qu'on leur ordonne comme subsistance un fruit, ils disent c'est ce qu'on nous a donné auparavant. أي هذا من جنسه وعلى وصفه. C'est-à-dire c'est le même genre que ce qu'ils avaient auparavant et de la même description. كلها متشابهة في الحسن واللذة. Dans le sens où les fruits du paradis entre eux, se ressemblent tous dans le délice, c'est-à-dire ils sont tous au même niveau de délice et de qualité. ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة. Donc c'est-à-dire que ils n'ont pas un seul fruit qui est bon ou un fruit qui leur est spécifique. Leurs fruits, qui sont tous d'une qualité extraordinaire, ils sont nombreux et diversifiés. Et en plus, ça veut dire aussi que ils passent pas un temps sans délices. Ils sont toujours dans des délices. فهم دائما متلذذون بأكلها. Tout le temps, ils sont en train de se délecter de ces nourritures-là, de ces fruits-là.
وقوله وأتوا به متشابها قيل متشابها في الاسم مختلف الطعم.
Donc quant à la parole d'Allah qui a dit وأتوا به متشابها, c'est-à-dire or on leur a donné auparavant quelque chose qui y ressemblait, c'est-à-dire le verset dit donc quand ils reçoivent un fruit ils disent on a reçu quelque chose de semblable, et Allah dit or on leur a donné quelque chose de semblable. Il dit, il a été dit, donc c'est-à-dire il y a plusieurs paroles dans le tafsir, que c'est-à-dire ils ont reçu des fruits qui avaient le même nom mais qui n'ont pas le même goût.
وَقِيلَ مُتَشَابِهًا فِي اللَّوْنِ مُخْتَلِفًا فِي الْإِسْمِ.
Et il a été dit ils se ressemblent dans la couleur mais ils n'ont pas le même nom.
وَقِيلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْحُسْنِ وَاللَّذَّةِ وَالْفَكَاهَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
Et une troisième opinion dit, c'est-à-dire comme on l'a déjà dit, que ces fruits se ressemblent dans leur qualité extraordinaire. Et le shir dit qu'il espère la Allah, c'est-à-dire il est probable que cette opinion-là, la troisième, soit la vie authentique sur la signification de on leur a donné quelque chose de semblable, c'est-à-dire que tous les fruits qu'ils reçoivent ils sont bons et ils sont d'une ils s'en délectent.
ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه.
Donc maintenant il dit, maintenant qu'il leur, il a décrit leur demeure et il a décrit ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils allaient boire et les fruits qu'ils mangeaient, maintenant il mentionne qui? Leur femme. Donc il les décrit selon la meilleure des descriptions et la plus claire.
فَقَالَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرًا.
C'est-à-dire il en a donné une description à la fois complète et résumée.
فَلَمْ يَقُلْ مُطَهَرَةٌ مِنَ الْعَيْبِ الْفُلَانِ لِيَشْمَلَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّطْهِيرِ فَهُنَّ مُطَهِرَاتُ الْأَخْلَاقِ وَمُطَهَرَاتُ الْخُلُقِ وَمُطَهَرَاتُ اللِّسَانِ وَمُطَهَرَاتُ الْأَبْصَارِ.
Donc il dit, Allah n'a pas dit elles sont purifiées, parce que donc cette expression qu'il a dit, il a dit أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ, ils auront des femmes, des épouses purifiées. Mais il n'a pas dit purifiées de tel défaut ou de tel défaut. Pourquoi? Pour que ça englobe purifié de tout, ce dont on peut être purifié, de tout défaut, etc. Donc c'est-à-dire qu'elles sont purifiées, elles sont pures dans leur comportement, elles sont pures dans leur aspect, elles sont pures dans sur leur langue, c'est-à-dire dans leur façon de parler, dans leur regard. Donc il dit فَأَخْلَاقُهُنَّ أَنَّهُنَّ عُرُبٌ مُتَحَبِّبَاتٌ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ وَحُسْنِ التَّبَعُلِ وَالْأَدَبِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. Il dit par exemple leur comportement, c'est qu'elles se font aimer, elles sont aimables pour leur mari parce qu'elles ont un bon comportement et elles se comportent bien avec elles, avec eux pardon, par leurs paroles et par leurs actes.
وَمُطَهَّرٌ خُلُقُهُنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَنِ خَلْقُهُنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَنِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَخَاطِ وَالْبُسَاقِ وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ.
Et aussi leur création, entre guillemets, leur aspect, est purifiée, purifiée de, des règles, purifiée du sang, d'al-hayd ou alors al-nifas, purifiée de l'urine, purifiée des excréments, purifiée des impuretés du nez, et aussi des crachats, ou alors des mauvaises odeurs. C'est-à-dire que les gens du paradis n'ont pas ces aspects-là.
ومطهرات الخلق أيضا بكلام بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق أو خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف.
Donc il dit aussi dans leur création elles sont d'une beauté parfaite, elles n'ont aucun défaut et au contraire elles sont خيرات حسان, c'est-à-dire sont des femmes excellentes et elles ont une langue et un regard purifié.
قاصرات الطرف على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن على كل عن كل كلام قبيح. Donc elles sont qasirat ou tarf. Ça, c'est aussi une expression qu'on trouve dans le Coran pour désigner ces femmes. C'est-à-dire, qasirat ou tarf, c'est comme si on disait elles ont un regard baissé ou réduit. En fait, ce qu'il dit, ça veut dire que leur regard n'est tourné que vers leur mari. Et aussi, leur langue ne dit pas de mauvaises paroles. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب الموصل لهذه البشارة فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته. Donc il dit ce verset, il explique, il te montre qui donne la bonne nouvelle, qui reçoit la bonne nouvelle et quel est le sujet de cette bonne nouvelle et qu'est-ce qui va te permettre d'acquérir cette bonne nouvelle. Donc celui qui donne la bonne nouvelle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui tient sa place dans la communauté, c'est-à-dire ceux qui font qui ont par la suite pris sa mission entre guillemets sallallahu alayhi wa sallam. Wal mubashshar hum al mu'minun al amilun as salihun al amilun as salihat. Et ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, ce sont les croyants. Ceux donc les croyants et les croyantes, ceux qui ont fait les bonnes œuvres. والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات. Et le sujet de la bonne nouvelle, ce sont ces jardins qui ont les qualités qu'on leur a citées. والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح. Et la cause qui te permet de recevoir la bonne nouvelle, c'est l'Iman ou l'Amal al-Salih, c'est-à-dire la foi et les bonnes œuvres. Donc ici, on l'a pas dit tout à l'heure, l'Iman, quand il est cité avec les bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'on sait que l'Iman, on l'a déjà expliqué, on ne va pas revenir là-dessus, l'Iman, ça englobe la croyance, les paroles et les actes, tout ce qui plaît à Allah et tout ce qu'Allah a demandé. Mais dans certains versets, comme ici, الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, comme les bonnes œuvres sont citées, Iman, on va l'expliquer par la foi du cœur. Et les bonnes œuvres, ça va être les paroles, et les paroles et les actes qu'on fait avec le corps.
فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب.
Donc il n'y a aucune façon de recevoir cette bonne nouvelle si ce n'est par la foi, la croyance et qui est suivie de bonnes œuvres. Donc c'est la plus grande des bonnes nouvelles et qui a été donnée par la meilleure des créatures, et qui est acquise par la meilleure des causes, qui est la foi et l'action.
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها.
Donc aussi, le verset montre qu'il est recommandé et il est demandé de donner la bonne nouvelle aux croyants, c'est-à-dire de leur donner espoir et de leur donner de la motivation à agir en leur montrant justement la récompense qu'ont les bonnes œuvres et leurs fruits. Donc la récompense et les fruits aussi.
فَإِنَّهَا بِذَلِكَ تَخِفُ وَتَسْهُلُ.
Parce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en expliquant aux gens quelle est la récompense des bonnes œuvres et quels sont les fruits qui en découlent, elles deviennent plus légères et plus faciles à faire.
وَأَعْظَمُ بُشْرَ حَاصِلَةٌ لِلْإِنسَانِ تَوْفِيقُهُ لِلْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.
Et la plus grande bonne nouvelle qu'un être humain peut recevoir, c'est que Allah lui facilite à emprunter la foi et les bonnes œuvres.
فَذَلِكَ أَوَّلُ الْبَشَارَةِ وَأَصْلُهَا.
Donc ça, c'est la première bonne nouvelle que la personne elle reçoit, c'est qu'elle soit justement croyante et qu'elle fasse les bonnes œuvres.
وَمِنْ بَعْدِهِ الْبُشْرَى عِنْدَ الْمَوْتِ.
Et il y a aussi la bonne nouvelle qui est lorsque la personne meurt.
ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم نسأل الله أن يجعلنا منهم آمين.
Et après la bonne nouvelle qui est le fait d'entrer donc au paradis éternel.
ثم قال عز وجل إن الله c'est pas l'heure de l'Aïcha 10
minutes. Là par exemple quand il a dit le shir mentionner la récompense et les fruits des bonnes œuvres, ça me rappelle quelque chose, donc pour ceux qui n'avaient pas entendu, je vous en fais profiter. Quand on était au Mureau et qu'on a eu au téléphone le Cheikh Saad al-Shathri, hafidhahullah ta'ala, donc il fait partie de l'Ejnat Daima, et on lui avait posé une question sur l'éducation des enfants, et il a dit que la personne, pour éduquer ses enfants, il faut qu'elle lui explique la récompense qu'elle aura à faire sa salat et ses œuvres, parce qu'il avait insisté sur la salat. Il dit la chose sur laquelle il faut assister pour, avec un enfant, c'est la salat. Et il dit mais en lui montrant la récompense qu'il va avoir pour ça, mais aussi les fruits que ça va avoir. C'est-à-dire, il y a la récompense, c'est une chose, mais ça a aussi des fruits qui sont précipités, c'est-à-dire qui sont dans la vie d'ici-bas. Donc il dit ça, c'est une façon d'éduquer ses enfants. Et il dit dans vos pays où la personne n'a pas vraiment pouvoir sur ses enfants, il dit je vous recommande surtout la douceur, parce que c'est le seul moyen employé, puisque la personne n'a pas un réel pouvoir sur ses enfants.
ثم قال عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
Ensuite le verset dit Allah n'a pas honte entre guillemets de donner en exemple quoi que ce soit, même si c'était un moustique ou quelque chose de plus grand.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.
Quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
Et quant à ceux qui ont mécru, ils disent qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cet exemple.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Donc il guide beaucoup par ses exemples et il égare beaucoup de personnes par ses exemples. Et il n'égare que الفاسقين, les désobéissants.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
Donc les désobéissants, ceux qui l'ahd, c'est-à-dire un pacte, on dit remplir un pacte ou tenir un pacte, qui rompent, c'est ça la traduction. Qui rompent le pacte en fait. Yanqudun al-ahd. L'ahd c'est un pacte que tu as et tu le. C'est-à-dire tu le remplis pas entre guillemets, tu le tiens pas. Donc on peut dire ils rompent ou ils coupent le pacte. Qui rompent le pacte, voilà, c'est ça. Après qu'il l'ait tenu, ou après qu'il l'ait plutôt, je vais lire la traduction, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Et coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sème la corruption sur la terre. Oula et kahumul khasirun. Ceux-là sont les perdants. Donc l'explication de ces versets-là.
يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي مثل كان.
Donc c'est-à-dire مثلا ما, c'est-à-dire n'importe quel exemple. Allah ne se gêne pas de le citer en exemple.
بعوضة فما فوقها,
que ce soit un moustique ou quelque chose de plus grand.
لاجتماع الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق,
parce que les exemples ils contiennent une sagesse et ils montrent la vérité, c'est-à-dire les exemples, les métaphores.
Wallahu la yastahi min al-haq.
Or Allah n'a pas honte de la vérité.
Wa ka'anna fi hadha jawaban liman ankara darb al-amthal fi al-ashya' al-haqira wa i'tarada 'ala Allah fi dhalik. Falaysa fi dhalika mahall i'tirad, bal huwa min ta'lim Allah li 'ibadihi wa rahmatihi bihim. Fa yajib an tutalaqqa bil qabul wa ash-shukr.
Il dit c'est comme si ici Allah répond à des mushrikin qui auraient contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui aurait reproché le fait qu'Allah donne en exemple des choses qui sont petites. Il dit mais au contraire, il dit ça c'est pas un sujet qu'ils peuvent utiliser pour contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au contraire, ça fait partie de l'enseignement d'Allah pour ses créatures et de sa miséricorde pour eux, c'est qu'il leur donne des métaphores et des exemples faciles à comprendre, et donc au contraire on doit les accepter et remercier Allah pour nous avoir donné ces exemples là
ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
يعني فيتفهمونها ويتفكرون فيها. Donc c'est pour ça dans le verset il a dit quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Le shir dit c'est-à-dire que ils cherchent à comprendre ces versets-là et ils réfléchissent dessus.
فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم.
Donc s'ils savent en détail ce que veulent dire ces métaphores et ces exemples, alors leur science et leur foi augmentent.
وَإِلَّا عَلِمُوا أَنَّهَا حَقٌّ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ حَقٌّ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ وَجْهُ الْحَقِّ فِيهَا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْرِبَهَا عَبَثًا بَلْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَنِعْمَةٍ سَابِغَةٍ.
Il dit mais si, au contraire, ils n'arrivent pas à les comprendre, Eh bien, ils savent quand même que c'est la vérité venant d'Allah Azzawajal et qu'Allah ne les a donnés en exemple que pour une sagesse, mais qu'eux n'ont pas réussi à comprendre. Donc, c'est-à-dire tous les amthal qu'il y a dans le Coran, et il y a beaucoup d'amthal, c'est-à-dire des métaphores ou des images ou des exemples, Allah Azzawajal les a donnés, et les croyants, soit ils les étudient et ils les comprennent et ils les réfléchissent, ou soit ils ne les comprennent pas, mais ils disent « Je sais qu'Allah Azzawajal, c'est la vérité » et qu'Allah l'a donné en exemple pour une sagesse. Donc ça, c'est la position des croyants. À ce propos, pour ceux qui ont l'arabe, il y a un livre qui existe sur ça. C'est une thèse de doctorat qui avait été faite par un cheikh qui s'appelle Abdullah Jorbo à Médine. Ça s'appelle « Al-Amthal al-Qur'aniya ». Et je ne sais plus combien de volumes où il a sorti tous les amthal qu'il y a dans le Qur'an avec leur explication, venant des différents livres de tafsir. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Quant à ceux qui ont mécru, ils disent qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cet exemple. فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. Donc ils contredisent et ils sont dans le trouble à propos de ces exemples, et donc ils augmentent dans leur mécréance par ces exemples qui sont dans le Coran, alors que les croyants ils augmentent en foi, parce que le Coran c'est quelque chose, bien sûr, c'est Houdan lil Muttaqin. C'est une guidée pour les croyants. Il fait augmenter les croyants dans leur foi, dans leur science. Mais en même temps, il fait augmenter le mécréant qui contredit, qui ne cherche pas la vérité. Ça le fait augmenter dans sa mécréance.
ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية.
Donc c'est pour ça qu'à la fin du verset, Allah dit « Il égare par eux, c'est-à-dire par ces exemples-là, beaucoup de personnes et il guide beaucoup de personnes. » C'est-à-dire, voilà la situation des croyants et des mécréants à propos des versets coraniques.
« قال تعالى « وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ.
Là, il a cité un autre verset pour appuyer ce qu'il dit. C'est le verset dont la traduction est « Lorsque on descend une sourate, certains d'entre eux disent « à qui d'entre vous cette sourate a fait augmenter la foi ?» Ceux qui ont cru disent « Quant à ceux qui ont cru, ça fait augmenter leur foi. » Et ils s'en réjouissent, c'est-à-dire de la descente des versets. Et quant à ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ça leur augmente en saleté sur leur saleté, rijs, c'est-à-dire l'impureté. Ça augmente l'impureté qui est dans leur cœur et ils meurent en étant mécréants.
فَلَا أَعْظَمَ نِعْمَةٍ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ نُزُولِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَمَعَ هَذَا تَكُونُ لِقَوْمٍ مِحْنَةً وَحِيَرَةً وَضَلَالَةً وَزِيَادَةَ شَرٍّ عَلَى شَرِّهِمْ وَلِقَوْمٍ مِنْحَةً وَرَحْمَةً وَزِيَادَةَ خَيْرٍ إِلَى خَيْرِهِمْ فَسُبْحَانَ مَنْ فَاوَتَ بَيْنَ عِبَادِهِ.
Il dit donc certes le fait qu'Allah Azzawajal descende des versets coraniques, c'est un grand bienfait pour les êtres humains. Mais malgré ça, c'est pour certaines personnes une épreuve et un test. Et ça va les mettre dans la confusion et l'égarement. Et pour certaines personnes, ça va être comme un cadeau. C'est-à-dire c'est un don pour eux et une miséricorde, et ça augmente le bien à leur bien. C'est-à-dire le Coran, il augmente du mal à ceux qui mécroient et qui ne veulent pas l'entendre, et il augmente le bien de ceux qui y croient. Et il dit, gloire à Allah Azzawajal et pureté à lui, celui qui a fait cette différence entre ses créatures. Et c'est lui seul qui guide et qui égare.
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى.
Ensuite, Allah Azzawajal mentionne ici que la sagesse qu'il a dans le fait d'égarer ceux qui l'égarent, et qu'en fait ce n'est qu'une justice de sa part.
فَقَالَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
Donc c'est pour ça qu'il a dit ensuite, or il n'égare par cela que les الفاسقين, c'est-à-dire les désobéissants.
أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا.
Donc il dit الفاسقين, le cheikh dit c'est ceux qui sortent de l'obéissance d'Allah et qui contredisent le messager d'Allah, à tel point que al-fisq c'est devenu leur caractéristique et qu'on les appelle fasiqun. et ils ne cherchent pas à échanger cette caractéristique qu'ils ont. C'est-à-dire, ils sont dans cette caractéristique.
فاقتضت حكمته تعالى إدلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى.
Donc la sagesse d'Allah fait que il les égare parce qu'ils ne conviennent pas à être guidés.
كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة.
De même façon que la sagesse d'Allah implique qu'il guide celui qui prend pour qualité la foi. اتصف بالإيمان, c'est-à-dire qui adopte la foi, وتحلى بالأعمال الصالحة, et qui se pare entre guillemets par les bonnes œuvres.
والفسق نوعان.
Donc là il ouvre une parenthèse sur la parole الفسق. Donc الفسق c'est comme الكفر, c'est comme الشرك, c'est comme الظلم, il peut avoir deux sens.
والفسق نوعان نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضى للخروج من الإيمان كان مذكور في هذه الآية ونحوها. ونوع غير مخرج عن الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
Donc il dit al-fisq, il est de deux sortes. Le fisq, c'est-à-dire des choses qu'on va appeler fisq, qui fait sortir la personne de la religion. Donc là il sera synonyme de quoi? De l'kufr ou du shirk. Et c'est comme celui qui est cité ici, c'est-à-dire qu'Allah ici quand il parle de al-fasiqin, il parle en fait des mécréants, il les a nommés fasiqin. Et l'autre sorte de fisq qui ne fait pas sortir de la foi, en fait ce sont les péchés. Comme dans le verset où Allah dit ô vous qui avez la foi, lorsque vous vient un fasiq avec une information, fatabayyanu, c'est-à-dire faites attention. Et dans une autre lecture, fatathabbatu, c'est-à-dire cherchez la confirmation de ce qu'il a dit. Donc là il a dit fasiq, alors que ça concerne un croyant, c'est-à-dire un croyant qui est désobéissant. C'est pas l'heure, non? J'en peux plus là. Le kufr c'est la mécréance. C'est pas l'heure de l'Aïcha?
Ouais.
Donc tu me rappelleras qu'on est arrivé dans le verset, dans l'explication du verset. Donc on s'arrête là. Donc par les sœurs elles ont posé dans la question, par contre, parce qu'en fait je sais pas si c'est une question à part, de citer les références et les savants entre guillemets. Donc c'est une bonne question. Donc les savants auxquels vous vous référez, je sais pas si elles veulent dire pour chaque question ou de façon générale, mais de façon générale, donc les savants Ahl-Sunna wa Jama'a, à leur tête bien sûr Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ibn Baz rahimahumullah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.